Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Emmanuel Robitaille avec vous cette semaine, toujours en compagnie de Robert Blondin. Bonjour Robert.
Bonjour Robitaille.
On est dans les vestiaires chaque semaine, un petit tour dans les vestiaires.
C'est une série de hockey, tu sais.
Hey, ben oui. Encore cette semaine, on parlera pas de hockey.
Non, vas-y, Robitaille, t'es capable.
Moi, je parle pas de hockey cette semaine, on parle de bonnes nouvelles. On parle de nouvelles différentes, on apprend des choses et on accueille également avec nous Linda Leclerc, fondatrice de l'école du yoga du rire. Pourquoi rire, ça nous rend heureux et c'est thérapeutique? Bienvenue à Aime la vie. Oh, Robitaille, ça étonne pas de parler de hockey aujourd'hui. Robitaille, elle comprend pas beaucoup le sport, elle est pas très sportive dans l'âme. Je sais pas si toi...
Moi, je suis très sportif dans le fauteuil. Là.
Dans l'eau, en tout cas.
Dans l'eau. Là, je fais de la gymnastique dans l'eau, mais non, mais dans le fauteuil chez nous, regardez, un bon match de tennis.
Oui!
Ou le Super
Bowl. T'es un sportif de télé, toi.
Oui, je m'en cache même pas.
Ben non, mais tu fais bien.
Mais le hockey, là, pour donner une idée, là... Moi, le maximum, c'est 15 minutes. Fait que je me regarde des fins de partie quand c'est intéressant. Autrement, oublie ça.
Moi, j'ai écouté les séries une fois. Je pense que c'était en 2011, puis j'ai failli faire une crise cardiaque. J'étais vraiment trop énervée. J'étais trop stressée. Tu sais, on connaît un peu mon enthousiasme et ma capacité à m'imprégner d'une expérience dans la vie. Non, c'était vraiment pas pour moi. Alors, j'ai décidé que je quittais le... je quittais le navire.
Ça a été échangé.
Non, c'est ça. m'a écouté des affaires sur Discovery Channel à la place. Bon, l'art au service de notre bien-être aujourd'hui. On a souvent parlé de la musique. Je vais faire du pouce sur cette idée parce que c'est sûr que moi, ça touche un peu plus mon cœur que le hockey, je vais le dire. Je suis une artiste dans l'art, mais danser a un effet positif sur le cerveau également. Ce qu'on se rend compte, c'est que ça renverserait les signes de vieillissement du cerveau. En comparaison avec plusieurs autres exercices physiques, la danse, surtout chez les personnes âgées, ça serait ce qui aurait le meilleur effet du renversement de l'âge et du déclin cognitif, bien sûr, qui est, bon, reconnu ou normatif, disons-le ainsi. Ça, non seulement ça diminue le stress, l'anxiété, la dépression et que ça augmente la mémoire, ça aide aussi sur le plan de l'équilibre physique. Imaginez, il faut apprendre plusieurs types de danse, d'apprendre des chorégraphies, ça a vraiment des effets sur tous les aspects. Comment tu ris? Il rit.
Non, j'essaie de t'imaginer dans une danse en ligne, c'est tout.
Non, mais pour ceux qui peuvent le faire ou du moins qui seraient appelés à, je pense que ça peut être une belle alternative au gym, par exemple, si on a un petit peu plus de difficultés, un peu moins de motivation à s'y rendre.
Ça aide la coordination puis un petit peu d'expression artistique quand même.
Effectivement, actuellement, on est en train de se rendre compte que ça aide à augmenter la grosseur de l'hippocampe, qui est une structure dans le cerveau qui est associée à beaucoup de déclins cognitifs, entre autres l'Alzheimer. Et les chercheurs veulent même développer un nouveau programme d'entraînement basé sur la danse qui serait officiellement reconnu. Donc, je trouvais ça très intéressant pour ceux que ça intéresse. Arrêtez d'aller au gym, arrêtez d'aérobie, là. Prenez de la danse à la place. C'est le fun, puis ça travaille tout.
Mettre de la musique sur ta gymnastique, ça fait pareil. Hein?
Ben exactement. Et parlant de musique, tu avais parlé de musique il y a plusieurs semaines de ça, qui était l'une des façons d'être heureux. On avait parlé d'ailleurs du fait d'apprendre un instrument de musique. Là, tu m'avais parlé de la vraie musique. Parce que pour toi, il y a de la vraie puis de la fausse musique, là, on va le dire.
Pas tout à fait ça, t'exagères un peu. Il y en a de meilleurs que l'autre, c'est tout.
OK. C'est pas en termes de véracité, c'est plus en termes de qualité, disons le récit. Donc, que ça jouait sur le corps calleux. Le corps calleux, c'est la structure qui relie nos deux hémisphères dans le cerveau qui les aidait à mieux se parler, on va le dire comme ça. Et ça prenait de l'expansion littéralement. Eh bien, la musique fait beaucoup plus pour notre cerveau. C'est fascinant. La musique, ça active plusieurs parties de notre cerveau, entre autres ceux qui sont responsables des mouvements, de la planification, de l'attention, de la concentration, de l'apprentissage et de la mémoire. La musique sécrète de la dopamine, qui est un neurotransmetteur responsable du plaisir, de la joie, de la motivation. Donc, ça améliore l'humeur, ça diminue l'anxiété. Et en créant Des expériences à caractère positif, ça aide à sécréter des hormones qui sont impliquées également dans le système immunitaire et qui le stimulent nécessairement par le fait même. Ça aide même les personnes ayant subi des blessures sévères au cerveau à se rappeler des souvenirs personnels. Donc, ça stimule la mémoire. On a une espèce d'aspect mnémonique, finalement. On dit que le nez, l'odorat, serait la plus grande mémoire de l'homme. Je ne sais pas si tu as déjà entendu ça, Robert, si vous avez déjà entendu ça à la maison, mais les odeurs seraient ce qui stimulerait les plus grands souvenirs. Moi, pour moi, c'est pas le cas, ça s'applique zéro.
Moi, si je veux me rappeler mon enfance,
ouais.
c'est à la fois le son et les odeurs. Le son, c'était les radioromans, là, Jeunesse dorée ouais. et tout ça, du matin. Et ces radioromans-là sentaient la soupe aux tomates. Parce que quand j'arrivais chez nous, c'était la soupe aux tomates.
Mais c'est exactement
c'est ça. Le souvenir est olfactif.
Ben, c'est exactement ouais. ça. Mais ici, on parle du son. Moi, je suis plus visuelle et auditive. Donc, ça va aider ces gens qui ont eu des difficultés sur le plan... Bon, ils ont eu des blessures au cerveau, à se rappeler davantage en mettant des musiques qui peuvent les aider à retrouver la mémoire. Ça soulage la douleur. Il y a des patients qui subissent des opérations et qui écoutent de la musique avant, pendant et après l'opération, ont un moins haut score sur l'échelle de douleur et ont moins besoin de médication, moins besoin d'antidouleur à la suite de leur de l'expérience médicale qu'ils ont subie. Et non seulement ça, mais les chirurgiens qui écoutent leur musique préférée pendant l'opération voient leur efficacité de pratique augmenter. Ils sont meilleurs.
Est-ce qu'ils écoutent ça avec un casque d'écoute?
Je ne sais pas, je ne leur ai pas demandé.
Moi, j'ai peur de ça parce que si un casque d'écoute, et l'anesthésiste leur dit, regarde, il est en train de s'emmêler, le patient, puis il n'entend pas. Là, ça m'énerve, ça. Là.
J'ose croire qu'il y a quand même un son modéré, un jugement appliqué sur la chose, mais j'ai trouvé ça absolument fantastique. Et la musique relaxante, ta préférée, augmente également le niveau d'altruisme chez les humains. On est plus gentil envers les autres, finalement, quand on écoute de la musique qui est relaxante, ça diminue la pression sanguine, ça aide aussi pour les migraines et les maux de tête, ça diminue leur fréquence et leur intensité. Souvent, là, les gens qui ont des maux de tête veulent le silence, non? Écoutez de la musique douce, ça va vous aider davantage. Ça aide pour les crises d'épilepsie et ça aide aussi sur l'acouphène chronique. Ça règle les troubles de sommeil. Ça aide le trouble déficitaire de l'attention chez les enfants. D'ailleurs, on a fait des tests et les enfants qui font des... tests de mathématiques, leurs performances ont augmenté de 40% lorsqu'ils ont de la musique. Donc, la musique pour tous,
mais
s'il vous plaît.
Quel genre de musique? Parce qu'il y a de la musique qui n'est pas de détente du tout. Là. C'est qu'on t'excite avec
ça. Je t'en parle de quelle sorte de musique dans quelques instants. On va voir qu'il y a des différences sur l'effet.
J'ai hâte d'entendre ça, par exemple.
Effectivement. Intéressant de nommer l'effet de la musique sur notre corps, notre santé, notre humeur. Effectivement, pas n'importe quelle sorte de musique. Mais j'ai trouvé des données intéressantes quand même. Il semblerait qu'écouter de la musique heavy metal, du gros metal. Jean-Sébastien à la régie aime ce type de musique d'ailleurs. Moi, à l'adolescence, j'en ai écouté, plus maintenant. Mais il y a des études qui démontrent que ça nous aiderait à mieux accepter des émotions négatives considérées comme étant négatives. Moi, j'ai bien de la misère avec cette notion-là d'émotion négative. Mais écouter des thèmes de tristesse et de colère, ça nous aiderait à mieux les gérer et à être mieux adaptés émotionnellement. On rechercherait moins de support émotionnel parce qu'en écoutant ce type de musique, ça nous permettrait de mieux le canaliser et de s'auto-supporter, finalement. N'en demeure pas moins que on sait qu'on est fait à 60% d'eau. Et que le...
Plus que ça.
On est à 60, entre 60 et 80. Ça doit dépendre si on fait de la rétention ou pas. Oui, oui. Non, mais Jean-Sébastien rit à la régie. Moi, je me suis trouvé drôle. Robert rit pas tout.
Ben, c'est parce que j'essaie de trouver, là.
Oui, ben, moi, sérieusement, j'ai lu beaucoup d'études et je vais t'avouer que le pourcentage varie. Et sincèrement, comprenons qu'on est majoritairement fait d'eau. On peut-tu s'entendre là-dessus?
Oui.
Bon. Et la conscience a un effet sur l'eau et les sons ont un effet sur l'eau. Le chercheur japonais Masaru Emoto, j'espère que je nomme bien son nom, je le salue, a étudié l'effet des mots, des chansons et des prières sur l'eau. Et la structure moléculaire de l'eau change littéralement quand elle est exposée à différents sons. Donc, ta question sur ça dépend quel type de musique est très, très, très intéressante parce que ce qu'on a remarqué, et les images sont éloquentes, les messages qui sont positifs créent des structures très, très harmonieuses comparativement aux mots comme mort, démon, nommons-les, là, comparativement aux mots joie, bonheur, plaisir. La structure moléculaire, là, elle est soit très structurée quand on dit des mots positifs ou absolument chaotique et désorganisée avec des mots négatifs. Même chose pour la musique. Quand on présente de la musique à la structure moléculaire de l'eau, quand on présente de la musique heavy metal, bien que ça nous permette de mieux canaliser nos émotions, notre corps n'aime pas beaucoup ça. La structure moléculaire de l'eau répond également de manière très désorganisée comparativement à une chanson que tout le monde connaît qui s'appelle Amazing Grace. Tu connais Amazing Grace, Robert? Ça rentre-tu dans une bonne musique, ça?
C'est vraiment mon avis. Termine, je vais te donner mon avis.
Ben, c'est beaucoup moins joli, effectivement. Il y a réellement une différence dans la structure moléculaire. Donc,
je ne comprends pas qu'on puisse changer une structure moléculaire. Est-ce que tu peux m'expliquer ça?
Hey, tu veux-tu vraiment que je parte là-dedans?
Ben, ça m'intéresse, moi, parce que tout est basé là-dessus. Là.
Ben, je veux simplement nommer attention aux mots que vous utilisez et surtout à votre discours intérieur parce que vous changez votre structure moléculaire vous-même. Ça, c'est très, très important. Là, tu veux que je rentre dans la physique moléculaire?
Ben, ça m'intrigue parce que je pensais pas qu'on pouvait changer de quelque façon que n'importe quelle structure moléculaire, mais c'est peut-être moi qui se trompe. Hein.
Mais le monde s'organise. Il n'y a aucun cristaux de neige qui est pareil l'un à l'autre. Donc, l'univers fait ça.
On n'est pas dans la structure moléculaire, là.
Ben, je veux dire, c'est une structure.
Il n'est pas moléculaire.
OK. Mais je vais aller faire des recherches sur l'aspect moléculaire de l'eau et je te reviens avec... Mais ça se pourrait, cher Jean, que ça soit un petit peu ardu.
Je veux pas contester plus qu'il faut, mais je comprends pas vraiment la structure moléculaire, ce que ça veut dire,
ouais.
Alors je sais pas.
Ouais.
Parce qu'une molécule de telle chose, c'est toujours construit de la même façon, l'oxygène, l'hydrogène, etc., non?
Effectivement, mais les propriétés de l'eau sont uniques et elles diffèrent de toutes les autres liquides, d'ailleurs. C'est ce qu'une autre étude démontre. Je vous en reparlerai de ça.
Ce que je sais, moi, de façon clinique, testé en laboratoire, il y a deux types de musique qui aident vraiment. Tu parlais de détente. Contentons-nous que du concept de détente pour le moment. Dans un premier temps, les deux musiques produisent dans le cerveau des ondes alpha,
mm-hmm.
qui sont les seules ondes. Ils ont connu de détente totale.
Tout à fait.
La première, c'est le grégorien, le mm-hmm. chant grégorien, mm-hmm. des moines, etc. La deuxième, c'est de la musique plutôt de type classique, mais à deux temps, toi qui connais la musique. Le 3-4, le 6-8, ça joue pas. C'est la musique à deux temps qui donne le meilleur, même la musique populaire, mais à deux temps, de plus d'effet que n'importe quelle autre musique.
C'est vrai?
Oui.
Ah, ben je suis surprise. Moi, les 6-8, j'aime beaucoup ça. Mais en tout cas, non, mais je vais juste le dire comme ça. Puis pour ce qui est de la molécule, je vais en faire des recherches là-dessus, mais peut-être que le mot serait plutôt la façon dont les molécules s'organisent pour créer une structure d'eau qui diffère.
Ça vous met de l'eau dans les yeux. Le bonheur fait rire aux larmes les enfants et les amoureux. Mais la grande tristesse que l'on ne peut plus supporter, ça ne fait plus pleurer, non, ça fait rire aux larmes. Rire aux larmes. cherche à culbuter. Que c'est drôle en mourir, quelqu'un qui tombe sur le nez. Et comme de toute façon, on ne peut vraiment rien changer.
On connaît la thérapie par le rire, on connaît que la joie, c'est l'état de base de l'humain, mais des fois, on l'oublie. Hein. Puis d'ailleurs, pour moi, une journée réussie, c'est une journée où j'ai ri beaucoup. Et notre invitée cette semaine, elle l'a bien compris. Même que quand on l'appelle et qu'on tombe sur son répondeur, on tombe sur des éclats de rire, qui est le reflet de son mode de vie. Fondatrice de l'école du yoga du rire, on parle de rire et des bienfaits du rire avec Linda Leclerc. Bonjour, Madame Leclerc.
Bonjour, comment ça va?
Encore une fois, toujours dans le rire, ça va très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui.
Ça me fait très plaisir.
Donc, vous êtes la première master trainer, qu'on dit, donc,
oui.
Au Canada, pionnière du mouvement en Amérique du Nord. Votre mojo de vie provient d'une citation de William James. « Nous ne rions pas parce que nous sommes heureux parce que nous rions. »
Exact. Et c'est tout à fait ça, hein?
Puis c'est vrai parce qu'on entraîne un état en faisant cette action de rire.
C'est tout à fait ça.
Est-ce que cette façon de changer le monde-là provient de la tristesse et du manque de joie que vous avez vu autour de vous, ou est-ce que c'est une façon de vivre votre vie qui est venue des moments difficiles que vous avez vécu vous-même?
Je pense que ça a commencé, mon cheminement avec le rire, ça a commencé quand j'ai réalisé que j'avais arrêté d'avoir des gros fous rires. J'avais pas arrêté de rire parce que, tu sais, rire, la plupart des gens, même que ce soit les équipes de travail avec qui je donne des interventions ou dans le public en général, souvent les gens vont me dire, je ris tous les jours, tu sais. Oui, mais pour avoir les bienfaits du rire sur notre santé, principalement physique, là, il faudrait qu'on rie de 12 à 15 minutes par jour. Puis ça, même pour moi, c'est pas tous les jours que je rirais ça si je faisais pas mes exercices. Donc, le jour où j'ai fait la prise de conscience que j'avais arrêté d'avoir des fous rires, je riais encore, mais même pas à tous les jours, puis parfois presque du bout des lèvres. Là. Mm-hmm. Cette journée-là, je me suis dit, ma grande, il y a quelque chose de très précieux qui est disparu de ta vie. Tu t'en es pas aperçu et c'est grave. Parce que c'est, tu sais, la joie de vivre, là, on dirait que c'est ce qui allume notre vie.
Mm-hmm.
En introduction, c'est ce que vous avez dit, Emmanuel, de dire, moi, les journées où je ris, ma journée est complète. Ma journée est plus belle.
Ouais.
La vie est plus belle quand on rit. Et donc, quand j'ai découvert que je pouvais entraîner mon corps en riant comme si c'était drôle, je pouvais entraîner mes muscles de rire en faisant comme si c'était drôle. Mais ce qui arrive, c'est comme si je jouais un tour. Hein. Je jouais un tour à mon corps parce que mon corps, il ne sait pas que je suis en train de faire semblant. Donc, il va stimuler, il va déclencher tous les mécanismes qui vont me permettre de respirer mieux, d'avoir plus d'endorphines dans mon corps, d'avoir moins d'adrénaline, de cortisol. Mon cœur va battre un peu plus vite. Je fouette l'énergie.
Mais ça, je veux en parler parce qu'on connaît les effets du rire biologiquement sur notre corps, sur notre cerveau. Oui, meilleure respiration, annulation du stress, la sécrétion d'endorphines, antidouleur, sommeil, digestion, circulation sanguine. Mais vous dites que rire stimule la créativité et la confiance en soi. Et ça m'a questionnée. En quoi?
C'est drôle, hein, parce que je vous dirais, vous allez à une rencontre, vous allez à, je sais pas, à une réunion, une assemblée, une activité en quelque part, vous êtes assis à côté de quelqu'un que vous ne connaissiez pas au départ, puis cette personne-là vous fait beaucoup rire. Premièrement, les échanges humains vous allez connecter avec cette personne-là, c'est sûr, parce que les personnes qui nous font rire, c'est des aimants sociaux. On a besoin de rire pour notre équilibre psychologique.
Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il faut rire, vous avez raison. Puis tout le travail de Patch Adams en dit long là-dessus. Mais quand vous dites que faire semblant, c'est aussi bon que de rire pour vrai, là, je vous suis pure pantoute.
Oh oui.
Est-ce que vous faites du vélo stationnaire, vous?
Oui, j'en fais, oui.
Dans l'eau.
Vous allez nulle part quand vous faites du vélo stationnaire. Pourtant, vous continuez à le faire parce que vous savez que c'est bon pour vos muscles, c'est bon pour votre cœur, vous allez avoir des bienfaits à faire du vélo stationnaire. Mais quand on fait l'exercice de rire comme si c'était drôle, notre corps va être en action de la même façon. Et là, dans notre cerveau, quand on est stressé, tu sais, des fois, là, en tout cas, ça me fait toujours sourire un peu parce que il y a pour certaines personnes, quand quand ils sont très stressés, ils ont de la misère à s'exprimer, ils oublient des choses, on n'a pas de concentration. Mm-hmm. Alors que quand on se met à rire, notre cerveau, c'est comme si on repose les parties de notre cerveau qui sont en état d'urgence, et là, toutes les composantes du cerveau vont pouvoir travailler ensemble. Donc, le cerveau droit est activé, puis ça, c'est le côté de la créativité, du jeu, de l'amour, puis ça, c'est infini. C'est pour ça qu'on dit que quand on rit, on développe notre créativité, notre imagination, parce que on est un peu dans le jeu, hein, quand on est en train de rire aux gros éclats. T'arrêtes d'être super sérieux et d'être une grande personne responsable dans ta vie.
Non, mais c'est juste étonnant de penser qu'en faisant semblant, c'est aussi bon que si on le faisait pour vrai.
Notre cerveau
c'est
est
comme
très,
si ça faisait,
très...
Si ça faisait autant de bien de simuler un orgasme que d'en avoir un, moi, je préfère
non,
un
ça,
vrai,
ça
en tout cas.
Non, ça se peut pas.
Non, mais ce que j'entends, c'est que c'est en faisant semblant, ça nous amène à un vrai rire.
Exactement.
C'est ça, la différence.
Moi, quand je commence à rire, quand je
fais des préliminaires, Robert, pour finir par avoir un orgasme, ben, c'est à peu près ça. Faut bien que tu te forces à un moment donné pour start ta patente.
Non, mais c'est pas la même chose. Vraiment pas. C'est comme un acteur, finalement. Les acteurs, quand ils jouent un rôle où ils sont très en colère, ou au contraire, où ils rient beaucoup, ils trouvent pas ça drôle nécessairement, là, mais ils rient beaucoup comme en le faisant comme de la comédie. Bon, nous, en le pratiquant comme un exercice, c'est à peu près ça qu'on fait. Parce que moi, je dis à mon corps simplement, place-toi dans l'action du rire. Mm-hmm. Même si ma tête trouve rien de drôle, mon corps peut se placer dans l'action du rire. Puis à ce moment-là, il vient un moment où, même si je fais semblant, si je le veux, c'est sûr que si je fais juste...
Mais non, puis qu'on y croit pas, de toute l'intention,
non,
c'est pas
non,
là,
c'est
on n'y arrivera pas. Là.
Mais si je déclenche le rire physique dans mon corps comme en le faisant vraiment énergiquement, par exemple, si je fais...
Puis en voulant vous amener là, vous allez vous y rendre.
Exactement. Puis à un moment donné, c'est mon rire simulé va arrêter d'être simulé, puis va devenir naturel.
Est-ce que c'est basé sur les techniques rogériennes là, du psychologue américain qui fait qu'à force de dire quelque chose, on finit par y croire et que ça devient vrai, là?
Je ne sais pas, ça a des bases dans la programmation neurolinguistique, ça c'est certain.
Ouais, c'est ça.
Parce que quand on agit, puis tu vois, moi quand je le pratique sur une base régulière, puis les gens qui le font avec moi sur une base régulière, ce qu'ils me disent aussi, c'est la vie est plus belle, je me fâche moins souvent, je ris plus facilement, les choses m'atteignent moins, je suis capable de placer une distance entre ce qui me préoccupe, puis effectivement,
la réactivité,
réaction. Et c'est ça. Donc, tu sais, en tout cas, moi, je trouve que quelque chose d'aussi magnifique, ça peut pas être nuisible.
Mais là, vous avez parlé d'exercices. Je veux savoir non seulement lesquels, parce que là, j'entends des notions de durée et d'intensité, de profondeur du rire. Ces 12 minutes-là, est-ce qu'ils doivent être consécutives, un peu comme l'exercice physique qui doit être comme un 20 minutes, sinon ça n'a pas d'effet, là?
Mais quand on le fait, en fait, là, moi, c'est très, très rare que je fais 15 minutes de suite toute seule. Mm-hmm. Quand je suis avec un groupe, on va faire des... Puis moi, je parle d'exercices. Ce sont comme des jeux, finalement, où c'est des mouvements, des gestes qu'on fait au quotidien, sur lesquels on ajoute du rire. Par exemple, le rire de l'accueil, c'est un exercice, moi je trouve ça très, très facile. C'est comme quand on se présente à quelqu'un, on tend la main, on se regarde, on va se présenter, on va dire bonjour, ça me fait très plaisir. Mais quand on fait l'exercice du rire de l'accueil, on fait le même geste physique, mais là on ne parlera pas, on va juste rire, en se regardant dans les yeux. Donc là, ça va stimuler le rire d'une personne à l'autre, puis on va le faire à plusieurs personnes. Et au bout de la séance, qui dure habituellement 50 à 60 minutes, c'est certain qu'on va avoir ri l'équivalent de 15 minutes minimum.
Un vrai rire, là, on parle du rire profond dont on parlait, de la vraie efficacité, non pas le rire en surface ou
stimulé. Et souvent,
stimulé.
C'est parce qu'après avoir fait les exercices où là, ta tête est au courant, là, tu sais, là, souvent notre tête va, en tout cas, moi, je trouve ça comique parce que je le vois dans le regard des gens, tu sais, qui disent « Mais là, je fais semblant, là. Ma tête le sait, mais en tout cas. »
Est-ce qu'il faut absolument avoir un sens de l'humour pour y arriver?
Non, non, non.
Très bonne question.
Non, c'est justement la beauté de ce que je pratique parce que le sens de l'humour, c'est un processus mental. Hein? Donc, si je suis disponible à trouver quelque chose de drôle ou si la blague, moi, me fait rire, ben là, je vais rire. Alors que, ben je vous raconterai une blague. Peut-être qu'une personne la trouverait drôle, l'autre personne la trouverait stupide, puis l'autre personne ne la comprendrait pas. Parce qu'on n'a pas le même sens de l'humour. Mm-hmm. Alors que le rire physique, comme le rire des enfants, les petits bébés, ils ne se questionnent pas sur « Mon Dieu, qu'elle est drôle, ma mère, quand elle me chatouille le ventre. » Ils ne se questionnent pas, ils rient. Ils rient, c'est simplement physique. Donc, c'est la même chose un peu qu'on active finalement. C'est pas de renier notre sens de l'humour, c'est juste de dire les jours où je suis pas disponible ou les jours où je suis seule ou les moments où je vis des choses plus difficiles, je peux faire l'exercice de rire et mon corps va en avoir des bienfaits et mon état d'esprit aussi.
Exactement, mais parce que la question de Robert est très, très intéressante, parce que ma question aussi était celle-ci, que si c'est pas dans nos habitudes de rire autant, ou même à la limite pour des gens qui sont dans un état de dépression actuellement, là, par où on commence? Ce serait quoi la chose à faire? On se regarde dans le miroir, puis on commence...
Ben moi, je suggère toujours aux gens, quand ça file pas, commencez par sourire.
Okay.
Souriez.
Commencez par arrêter de pleurer.
Des fois, c'est juste pas une option. Quand on a des... Moi, je suis comme tout le monde, j'ai des coups durs, puis je vis des choses moins agréables. J'allais dire des drames, mais pas à ce point-là, là, mais je vis
ça
des
se pourrait.
Choses,
on n'est pas à l'abri.
Ben oui, tu sais, des deuils, des coups durs, toutes sortes de choses. Ces journées-là, je vous dirais que le rire est beaucoup moins disponible pour moi, mais je peux garder un cœur joyeux quand même. Donc, si j'ai pas la possibilité de rire, je vais commencer par sourire. Donc, quelqu'un qui filerait vraiment pas bien, qui vit une période de dépression, commencez par sourire. Mettez votre corps dans l'action, dans le mouvement. C'est sûr que ça demande un effort. C'est comme la première fois que tu t'embarques sur ton vélo au printemps. Je reviens avec mon vélo, là. Mais quand tu embarques sur ton vélo au printemps, ouf, que les côtes sont difficiles à monter. Si tu n'as pas fait de vélo stationnaire tout l'hiver.
Mais au moins, il faut l'essayer. Et je pense que l'essayer, c'est l'adopter. Et pour en savoir plus sur les programmes que vous offrez, on visite le www.yogadurire.com. Vous avez également le courriel info@commercialyogadurire.com et vous avez également une page Facebook d'un groupe privé pour partager et rire ensemble. On invite tout le monde à aller vous rejoindre dans ce que vous offrez à tout le monde et on n'oublie pas de commencer par au moins esquisser un sourire chaque matin.
Se mettre un sourire sur la figure. Exactement.
Chaque matin.
Si c'est trop difficile, prenez une paille, placez-la à l'horizontale dans votre bouche et tirez les coins de la bouche pour justement faire la mécanique physique du sourire.
Merci infiniment, Mme Leclerc.
Moi,
je vais prendre vos conseils. Même si je ris beaucoup, je vais continuer. Je vais même me forcer parce que ça vaut la peine. Merci infiniment.
Ça vaut certainement la joie. Bonne fin de journée.
Bonne fin de journée à vous. Au revoir.
Au revoir.
On apprend à avoir bien ri, parce que quand même, j'ai un peu fou rire depuis quelques minutes. Ça m'a fait très, très du bien, en fait. Beaucoup de bien. On parle des journées mondiales et des journées internationales parce que chaque journée est spéciale dans la vie. Et cette semaine, plusieurs journées internationales et mondiales méritent d'être soulignées. Entre autres, le 8 mai est la journée mondiale de la Croix-Rouge. Saviez-vous que maintenant, ça regroupe 97 millions d'hommes et de femmes et ça compte maintenant des sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dans 176 pays à travers le monde. 8 et 9 mai, journée du souvenir et de la réconciliation à l'honneur des morts de la Seconde Guerre mondiale.
Peux-tu juste ouvrir une petite parenthèse sur la Croix-Rouge?
Tu peux faire tout ce que
un
tu veux, Robert.
Beaux.
On est dans
non,
un pays...
Non, pas vraiment ce que je veux. Non. Ça. J'ai de l'éthique quand même.
Okay.
Je dirais qu'un des plus beaux musées que j'ai vu dans le monde, est à Genève, c'est le musée de la Croix-Rouge.
Vraiment?
Et il est tout simple, il y a quelques grandes photos sur les murs, très, très, très dénuées, très, très, très épurées comme musée. Mais il y a au centre d'immenses classeurs que tu peux ouvrir, tu ouvres les tiroirs, et c'est des petits fichiers, des fiches dedans. C'est quoi ces fiches-là? C'est tous les gens qui sont disparus au cours de la Deuxième Guerre mondiale, dans les camps d'extermination, etc. Bon, fiche par fiche, photos incluses, etc. Des millions. T'as juste à fouiller là-dedans, le message est extraordinaire. C'est extrêmement prenant.
Et c'est là qu'on voit la concordance avec la journée du souvenir, justement, qui s'étend sur la fin de semaine complète du 8 et 9 mai cette année. 9 mai également, journée de l'Europe, qui provient d'une entente entre le ministre des Affaires étrangères français Robert Schuman et le commissaire général au plan Jean Monnet de gérer en commun leurs ressources de charbon et d'acier dans le temps dans une organisation ouverte aux autres pays d'Europe. Et ça a donné lieu à la déclaration Schuman, qui est maintenant considérée comme l'acte de la naissance de l'Union européenne. On fête ça maintenant le 9 mai. Le 10 mai, Journée mondiale du lupus, on connaît cette maladie invasive là, qui est soulignée depuis 2004 et a été initiée en Angleterre pour sensibiliser le public à cette maladie auto-immune et pour ramasser des fonds pour la recherche d'un traitement de cette maladie qui est très invalidante, nécessairement.
Dégueulasse maladie.
Tu l'as dit. 10 mai également, journée commémorative de l'abolition de l'esclavage en France métropolitaine, date choisie par Jacques Chirac, entre autres, non seulement pour commémorer, mais également s'interroger et développer les connaissances scientifiques et démystifier le phénomène pour l'instaurer dans les établissements scolaires allant du primaire à l'université. Très intéressant. 11 mai, journée mondiale des espèces menacées. D'après une étude de l'Union internationale pour la conservation de la nature, c'est plus de 20 000 espèces de plantes et d'animaux qui sont en danger de disparition chaque année. Et on utilise donc cette journée du 11 mai pour se sensibiliser, changer nos comportements un peu chaque jour au moins.
Et n'oubliez pas l'espèce la plus menacée sur Terre actuellement qui s'appelle l'humanité.
Oui. 12 mai. 12 mai. Journée internationale de l'infirmière. Ma mère est infirmière auxiliaire, donc j'ai une pensée pour elle, ma belle-maman, qui est retournée aux études à l'âge de 50 ans, qui a su faire des pansements et prendre soin toute sa vie, on va se le dire. Chapeau à toutes les infirmières, d'ailleurs.
Un bon souvenir pour la première infirmière, l'anglaise Florence Nightingale.
Basée sur la naissance de Florence Nightingale, instigatrice des bases de la profession infirmière contemporaine, Robert, exactement, une première personne à définir les besoins individuels de chaque patient, à établir les formations et à souligner l'importance d'une formation continue dans ce domaine professionnel-là. Les infirmières, c'est plus du tiers de la main-d'œuvre du réseau de la santé. Et cette journée-là vise, bien sûr, à améliorer les conditions de travail, considérant les longues heures interminables, les burn-out. Et on souhaite du fond du cœur que leur situation soit reconnue et qu'elle change. Le 12 mai sont les journées mondiales du commerce équitable et la journée mondiale de la fibromyalgie, autre maladie également, soulignée dans 29 pays actuellement. Et l'objectif, c'est bien sûr également de sensibiliser les gouvernements, les institutions, les médias de la situation des personnes qui souffrent de cette maladie orpheline-là. Orpheline parce qu'elle est sans traitement, elle est incurable, sans prise en charge, avec des connaissances qui sont extrêmement limitées quant aux causes de la maladie. Aux États-Unis, c'est un cas sur 10 d'invalidité qui est causé par la fibromyalgie actuellement. 13 mai, jour de l'orgue. J'ai trouvé ça le fun, la musicienne en moi. Je joue pas d'orgue. J'ai fait 3 ans de piano, puis je lis pas la musique, j'avais 13 ans. Mais c'est le jour de l'orgue, le 13 mai, qui est créé par l'association Orgue en France. C'est maintenant depuis 2013 et c'est 850 concerts sur les 5 continents pendant la deuxième fin de semaine de mai qui est offert en pour célébrer.
Et la Maison symphonique va offrir 2 concerts cette fin de semaine-là sur le fameux Orgue Bic. Extraordinaire.
Ben voilà, donc moi, puis l'orgue est un de mes instruments favoris. Donc je suis contente un peu qu'il ait sa journée. Et le 13 mai, on fête également la Journée mondiale de l'ingénierie pour l'avenir parce que le nombre des jeunes qui s'intéressent au domaine de l'ingénierie et des technologies sont en nombre décroissant. Et on profite de la journée pour informer la population sur les avenues potentielles dans ce domaine. C'était les Journées mondiales et internationales de cette semaine. Thank you. Blondin.
Oui, Robitaille.
Le Bonheur, tu connais ça un peu?
Hey, on en parle-tu?
J'aimerais ça.
Des petits trucs, encore une fois. Hein? Si, on, le premier, t'as ton crayon, là,
tu j'ai vas tellement, tout, tu vas tout hey, moi, noter j'aime ça, mais bon, tu le okay. sais. Je suis ton alors, meilleur public, vas-y.
C'est de tu sais, t'ouvres ta pharmacie, puis il y a plein de remèdes. Hein? Mm. Quelques-uns, on en a tous.
Oui. Okay?
Alors, tu décides un matin de devenir ton propre remède.
Oh! Avant... On parle d'un jeu de rôle ici. Là.
Oui, absolument. Absolument. Avant de prendre un remède, tu dis, est-ce que j'en ai pas un à l'intérieur de moi?
Oh, wow! Ici? Oh, j'aime ça.
Il me semble que je pourrais faire de quoi tout seul, tu sais?
Mm-hmm.
Sans avoir de petits morceaux de sucre blanc à prendre et à avaler. Bon. Donc, je décide de devenir mon propre remède.
Je peux te partager quelque chose avec
Mais
ce que
partager,
tu viens de nommer?
Partager, madame.
Parce que ce que ça sous-tend, comme idée, c'est de faire confiance à son corps et de faire confiance à ce qu'on a à l'intérieur, qu'on est la ressource principale de notre bien-être.
Et à son intuition.
Exactement. Et je partage une tranche de vie aujourd'hui. J'avais de la médication pour ma vessie et mes reins dû à mon cancer. Moi, mon rein droit avait été touché par la tumeur cancéreuse qui était revenue vers le ventre. Donc, j'avais une dilatation du rein. Et on m'avait médicamenté à vie pour ça. Et un jour, j'ai décidé que c'est pas vrai que j'allais commencer à prendre des médicaments à vie pour ci, puis pour ça, j'ai commencé jeune, on se comprend, j'avais 11 ans quand j'ai commencé ça. Et vers l'âge de 28 ans, dans une tumulte, je partais en France chanter, j'avais plus le temps de prendre mes médicaments et ça cessait. Et j'ai déménagé et à ce moment-là, j'ai dit, j'essaie d'arrêter ce médicament-là et à chaque année, j'avais des bilans. Eh bien, crois-moi que j'ai attendu 2 ans avant de refaire un bilan et je n'étais plus malade et tout s'était résorbé et je n'ai plus besoin de médication.
Alors, ça, toi?
Alors je voulais appuyer absolument
Alors,
parce que ce que tu dis
es
est vrai.
Tu es devenu un de tes propres remèdes.
J'ai fait confiance à mon corps.
OK. Une autre truc. Aujourd'hui...
J'ai mon crayon.
Hein, aujourd'hui, j'essaie d'identifier qu'est-ce qui va quand même un petit peu mieux qu'hier.
Mais oui.
Il y a quelque chose qui doit aller mieux aujourd'hui. Il y a peut-être 2-3 affaires qui vont moins bien, mais trouve-en une qui va mieux qu'hier pour le fun.
Choisis où tu poses les yeux. Je peux te nommer la température qui va beaucoup mieux de jour en jour.
Oui, surtout si c'est ta température intérieure. Si je fais plus de fièvre, c'est encore
c'est
mieux.
C'est déjà pas pire, hein, quand même.
Dois-je changer la coloration du verre de mes lunettes pour demain? C'est-à-dire la façon de voir la vie, la perspective, le point de vue. Aujourd'hui, je l'ai vu de cette façon-là. Si je changeais mes lunettes demain, si je voyais ça d'un autre point de vue, si je tassais un petit peu plus du côté du passé, de l'avenir ou de l'autre côté de la rue, je verrais tout ça différemment pour le fun. Changeons le point de vue.
Il y a une phrase qui dit « Ne dis pas du monde qu'il est sale parce que tu as oublié de nettoyer tes lunettes. »
C'est bien. C'est très bien ça. C'est de qui ça?
Je sais pas.
C'est bon. Okay.
Mais ça vient pas de moi. Je prendrai pas le crédit, mais je vais te le trouver.
Si vous avez préparé un bol... Hein, suivez-moi bien. Un bol de petits billets. À un moment donné, quand ça va bien, là, tu prends un beau bol, là, tu fais des petits billets okay, qui décrivent des choses qui te plaisent, des choses qui
des choses
extérieures,
des choses
en des petits papiers.
On... Okay.
Toutes sortes de choses. Tout ce qui se passe par la tête
quoi.
Que t'aimes. La réglisse rouge.
Ah, j'aime ça.
Ah, bon. ou autre chose, ou des attitudes, ou quoi que ce soit.
OK, ouais.
Tu t'en fais un plein bol à un moment donné.
L'odeur de sauce tomate.
Et de temps en temps, quand t'es pas trop sûr en te levant le matin, tu piges dans le bol.
Oh, j'ai le goût de le faire.
Et ça se pourrait que ça marche, tu sais. Dernier truc. Tu choisis, tu te fais une liste, tu l'écris, là. La liste des personnes de qui tu voudrais de l'aide si jamais t'en avais besoin.
Oh!
Tu t'en fais une liste. Puis tu gardes ça de côté. Tu plies ça, tu me sens dessous de ton bol. Et à un moment donné, ça ne file pas trop. Puis, tu as besoin d'un petit peu d'aide. Regarde. Attends pas que ça vienne tout seul. Sors, déplie ton petit papier. Regarde, tu as 8 ou 9 noms, là. Le numéro 4, ouais, Roger, ça a du bon sens. Je vais l'appeler. C'est vrai. Roger pour me donner un coup de main aujourd'hui là-dessus. Mais la liste est toujours prête avec le numéro de téléphone.
Parce qu'on sait
nom.
Que quand on a besoin d'aide, c'est pas là où on a la tête
a,
la plus claire
on
pour
a
aller...
un moins bon jugement à ce moment-là. Voilà, c'était des trucs de la semaine.
C'est magnifique. Merci, Blondin. Tu nous aides dans notre propre bonheur, Robert, chaque semaine, mais t'as ri, t'as souri? Quelque chose qui t'a fait plaisir cette semaine?
Oh, plusieurs.
Oui.
Mais il y en a une qui m'a fait presque plus que sourire, mais vraiment un sourire de contentement profond.
Oui.
On parle souvent des problèmes d'environnement, puis ils sont très graves. On peut pas sourire beaucoup là-dessus. Mais de temps en temps, il arrive une solution, une trouvaille. Et cette semaine, il est arrivé la plus belle des nouvelles depuis des années, à mon avis, la plus importante au niveau de l'environnement.
J'ai goût d'un roulement de tambour.
Et ça vient de l'Université Laval.
Oh, wow!
C'est cette fameuse bactérie mangeuse de pétrole. Okay? Ça a été identifié, le nom exact, aime ça les noms, toi, c'est l'Alcanivorax borkumensis. C'est la dernière fois que je le prononce.
Je t'en demandais pas tant, mais merci de ta générosité.
Mais la bébite en question, la bactérie en question...
Ouais.
A été développé il y a un peu plus de 10 ans en Allemagne. On savait que ça mangeait du pétrole, mais à un rythme pas toujours assez vite pour les besoins qu'on aurait compte tenu de l'importance de la pollution au niveau du pétrole.
Tout à fait.
Une chercheuse de l'Université Laval, de l'INRS, à l'Université Laval, Satinder Kausbrach, jolie femme qui vient probablement d'Inde ou du Pakistan, en tout cas charmante et super scientifique, vient de mettre sur pied cette même bactérie, en l'injectant surtout, en l'aidant au niveau génétique, à produire des enzymes particulières. Une enzyme, en biochimie, c'est comme des ciseaux. C'est le seul instrument qu'on connaît qui peut changer une structure moléculaire.
Je savais qu'elle allait me pogner dans le détour.
Ça prend une enzyme pour faire ça. Ça prend pas de la musique, ça prend une enzyme.
Okay, bon. Vas-y, je te laisse.
Et avec cette enzyme-là, le rythme avec lequel la bactérie mange non seulement le pétrole. Si vous avez un bout de terrain, par exemple, qui est contaminé par du pétrole, vous en mettez là-dedans, on est en train de commencer à les produire en grande quantité pour pouvoir les mettre dans des endroits comme ça, et ça se reproduit facilement. Et ça peut dépolluer, je te dis pas instantanément, c'est pas quelques années, on s'entend là. Elle va manger ça.
Donc les maps
parce
de pétrole...
Parce qu'elle transpose, elle se nourrit de ça, cette bactérie, c'est sa source d'énergie. Donc le pétrole est transféré en énergie. Et il disparaît. Sauf que c'est aussi valable, et c'est là que c'est le plus intéressant,
rien
à mon
avis.
Rien ne se
perd, rien ne se crée. Il disparaît où, là?
De l'énergie.
Ah! Donc, OK.
C'est ton énergie, okay. Mais c'est l'énergie des bébites en question.
OK.
Là où c'est encore plus intéressant que pour le pétrole lui-même, c'est que c'est valable pour les dérivés du pétrole. Imagine-toi tous ces plastiques qui sont en train de faire un continent en plein Atlantique actuellement. Ben, s'il y avait de ces bactéries-là, avec leur enzyme particulière, dans ce coin-là, et qui se reproduiraient, on pourrait peut-être, avec le temps, arriver à penser réduire le problème jusqu'à le régler. Alors, ça me semble, pour cette semaine, une nouvelle absolument extraordinaire.
Apporter,
bravo à Satinder Kaubrar, et surtout à l'Université Laval, et ça, c'est le monde entier, sera... Bon. C'est pas des gens de Québec, évidemment, mais c'est l'Université Laval qui a développé ça avec des gens qui venaient d'ailleurs que de Québec.
Ben écoute, on vient tous de la planète Terre et sincèrement, quiconque veut bien l'aider, on va le prendre, merci
infiniment. Mais si on veut y rester, on peut aussi mettre sa force derrière.
Ben c'est exactement, c'est effectivement une excellente nouvelle et j'aimerais prendre des nouvelles également du comité sur lequel tu as siégé la semaine dernière. Tu as dû t'absenter parce que tu as été parlé pour la condition de personnes âgées dans un CHSLD ici à Montréal.
Oui, on a eu une bonne réunion. Je pense que éventuellement ça pourra avoir son effet. Mais quand on émet des idées dans un système aussi lourd que le système de santé et le système scolaire,
comme un système de
au
gestion,
Québec ou ailleurs, avec des fonctionnaires, faut émettre l'idée, les sensibiliser, c'est une chose. Ce qui est plus important, c'est le suivi. Alors, après ça, il faut suivre le dossier et pousser dans le dos.
C'est ça que je dis, ton idée est comme tomber dans un système digestif où il y a l'œsophage, puis après, il faudra que ça passe par l'estomac.
Oui, puis ça, c'est le genre d'endroit où on peut trouver des enzymes qui brisent des structures moléculaires.
OK. Mais-en. Bonne nouvelle de mon côté. J'ai envie de te parler de beaux humains. Moi, cette semaine, ce sont des humains qui m'ont touchée particulièrement. Entre autres, un pasteur qui a créé un événement qui s'appelle « Déjeuner pour les pères P-E-R-E-S », pas les P-A-I-R-E-S, mais les papas, dans une école de son village pour assurer la présence de la qualité des figures masculines dans la vie des jeunes. Donc, il y a plusieurs jeunes qui n'ont pas de figure masculine comme modèle. Et ce pasteur-là a utilisé les réseaux sociaux. Il a demandé simplement à 50 personnes volontaires pour se présenter, 50 hommes qui voudraient agir comme mentors pour une présence masculine, pour un échange, le temps d'un déjeuner avec des jeunes. Ce matin-là, c'est 600 hommes qui se sont présentés. 600 hommes, dont des juges, des pilotes d'avion, des militaires, des grands-pères. Et ils ont fait des déjeuners, ils ont échangé avec ces jeunes garçons-là. Et il y avait même une activité qui s'appelait les nœuds de cravate, où ils ont appris à faire un nœud de cravate. Et toi, tu es un homme. Je ne sais pas pourquoi, mais chez l'homme, apprendre à faire le nœud de cravate, c'est un moment, je pense, qui est important. Je pense que c'est une transmission de connaissances qui est significative.
Veux-tu que je t'explique pourquoi?
J'aimerais.
Le micro, vas-tu me prendre? Décris ce que je vais faire parce que je vais être hors micro, OK? Alors,
OK.
Répète ce que je vais dire. On va faire une expérience. Okay. Alors, si je suis un homme âgé, ce que je suis, disons que tu es un jeune garçon à qui je veux montrer la seule façon qu'on peut montrer à faire un nœud de cravate, c'est pas être en face l'un de l'autre. C'est impossible parce que c'est l'effet miroir. Il faut que j'aille derrière toi, passer mes mains autour de toi et le faire dans ton cou, donc je t'enlace. C'est rare que les hommes enlacent un autre homme ou un même plus jeune. Surtout comme ça.
Et que ce soit socialement accepté et socialement encouragé.
Et ça fait partie de l'initiation que de le faire comme ça.
Génial! Ouais. Mais moi et ma sœur, on a appris à faire des nœuds de cravate quand on était jeunes. On était des filles, mais on voulait apprendre ça. Donc, je ne sais pas ce qu'il y a dans cette activité-là. Mais bref, je trouve que ce pasteur-là a eu une idée incroyable. Ça a eu un énorme succès. Et bien sûr, ils veulent réitérer pour avoir encore plus de jeunes, plus de mentors. Et j'espère que ça va se faire dans tous les pays du monde, sur toute la planète. C'est quelque chose que j'ai trouvé très, très magnifique. Une histoire vraie également qui m'a touchée beaucoup. C'est un homme qui possède un Airbnb ou un, tu dirais en français, une auberge pour vacanciers qu'il possède lui-même. Et cet homme sauve maintenant des milliers de vies après qu'un de ses clients ait fait une crise cardiaque chez lui. C'est l'histoire d'un écrivain argentin du nom de Hernán Cassiari, qui est allé passer des vacances à Montevideo, en Uruguay. Il a résidé dans cette auberge tenue par un couple, Javier et Alejandra. Je pratique mon espagnol ici. Et pendant son séjour, Hernán, l'écrivain vacancier, a fait un arrêt cardiaque. Il est mort, il est revenu à la vie grâce au couple propriétaire qui ont tout de suite appelé les urgences, l'ont amené à l'hôpital. Non seulement ça, ils ont veillé à son chevet avec lui pour s'assurer qu'il ne soit pas seul et lui ont même offert une transfusion sanguine parce qu'il en avait besoin. J'ai trouvé ça absolument fabuleux et fort généreux de leur part. C'était comme pas dans le mandat. On se comprend. Nécessairement, à la suite de cette péripétie-là, notre cher Hernán a donné une cote 5 étoiles à l'auberge sur les réseaux sociaux en racontant tout ce qui était arrivé et en louangeant, bien sûr, le couple avec qui il a fait affaire et qui avait pris soin de lui énormément. Mais l'histoire ne se termine pas là. Ce qui est intéressant, c'est que Javier, l'homme propriétaire de l'auberge, donc l'homme du couple qui a porté secours à l'écrivain, lui-même avait été diagnostiqué d'insuffisance rénale en 2007 et il devait être dialysé plusieurs fois par semaine pour assurer sa survie. Et lui-même avait beaucoup voyagé et en voyage quelques années auparavant, il s'était buté au manque d'accès des hôpitaux. Quand on est en voyage puis qu'on ne sait pas où on se trouve dans le pays où on se trouve, on ne connaît pas les services. Et une dialyse, tu niaises pas avec ça. Tu as besoin de ça rapidement. Et il était presque arrivé à un moment fatal où il n'y avait pas de service. Donc, quand il est revenu de son voyage, il a été correct, mais il a créé une application qui s'appelle Connectus et qui vise à aider les voyageurs à trouver des hôpitaux proches pour ceux qui ont des besoins de soins courants, surtout pour éviter que ça leur arrive à leur tour. Donc, on revient à cette histoire de crise cardiaque. Hernán fait une cote 5 étoiles à l'auberge de Javier. Il y a un riche, très riche, homme qui prend connaissance de cette histoire-là et qui se déplace à Montevideo pour aller s'entretenir avec le couple, Javier et Alejandra. Il en profite pour en apprendre plus sur l'application Connectus que Javier avait fait des années auparavant. Eh bien, il a décidé d'investir dans l'application de Javier pour qu'il y ait une plus grande portée. Donc, en 2016, grâce à une crise cardiaque que Javier a plus que généreusement réglé avec sa femme, son application est devenue Connectus Médical et a maintenant une portée de 250 000 utilisateurs à travers le monde. Et non seulement ça, mais en 2017, Javier a reçu un rein et a plus besoin de dialyse. Donc pour moi, c'est la grande chaîne du donner au suivant. Quand on donne sans rien attendre, c'est ce qui peut en ressortir et j'ai trouvé que c'était absolument magnifique. Je voulais vous partager ce qui se passait dans le monde. C'est le genre d'affaires qu'on peut voir quand on décide de le regarder. Merci Jean-Sébastien Laliberté à la régie. Merci Catherine Bourderon à la recherche. Merci également à Linda Leclerc d'être venue nous parler du yoga du rire. Et merci Robert d'être toujours
Bonne semaine.
Présent. Bonne semaine.